Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi est l'émission des chômeurs précaires. Ce soir je suis avec Ludo, bonjour Ludo.
Bonsoir.
C'est Gilles au micro avec bien sûr Claude à la technique. Ce soir nous vous parlerons en fin d'émission du décret d'application du 28 décembre 2018 sur l'assurance chômage qui durcit les sanctions envers les demandeurs d'emploi. Obligation pour un chômeur d'accepter une offre même avec une perte de salaire conséquente par rapport à son ancien salaire. Une non-présentation à une convocation non justifiée coûtera un mois sans indemnisation. C'est du dur. Mais dans un premier temps, nous vous présentons un débat qui s'est déroulé à la commune d'Aligre le 30 novembre à propos d'un ouvrage qui retrace la lutte des chômeurs « Quand les chômeurs se mobilisent » de Valérie Cohen et Xavier Duneza aux presses universitaires de Rennes. Les deux auteurs sociologues ont mené de nombreux entretiens sur différents terrains et ont fait de l'observation participante déclarée. Le livre est fouillé, pertinent, avec beaucoup de références. Au départ, ce sont deux études ethnographiques menées au sein d'AC et de Morlaix qui permettront aux deux chercheurs de poursuivre leurs investigations et d'étudier les trajectoires militantes. Un livre remarquable. Deux petites réserves cependant, pour ce qui me concerne. Avoir oublié de parler de l'émission d'AC Mode d'emploi qui est animée pourtant par des militants bénévoles depuis 25 ans. Et je regrette pour ma part aussi que les références bibliographiques soient intégrées dans le corps du texte, entre parenthèses, alors que j'aurais préféré les lire en notes en bas de page. Mais selon les auteurs, c'est un choix de la maison d'édition. Alors écoutons le débat.
Ce travail qui a été vraiment considérable et qui pose énormément de questions aussi, à la fois des questions théoriques et à la fois des questions très pratiques sur la façon, les raisons de l'engagement des chômeurs, et puis en même temps à leur côté il y avait aussi des salariés, des syndicalistes, des retraités, enfin il n'y avait pas que des chômeurs dans les mouvements de chômeurs et précaires des années 90. Donc ils vont nous expliquer comment cet engagement s'est fait, avec une très forte mobilisation dans les années les années 1997-98, moment des occupations d'ANPE et d'autres, de beaucoup d'autres bâtiments importants. Et donc, ils vont nous expliquer comment, quelles sont les conditions qui ont permis à cette mobilisation d'exister. Également, quels ont été les différents types d'engagements militants qu'ils ont pu observer. Parler peut-être un peu aussi des acquis de ce mouvement et de ce qu'il en reste aujourd'hui, parce qu'il en reste encore quelques traces, heureusement, mais peut-être pas pour très longtemps. Est-ce que le désengagement que nous avons pu constater depuis 10 ans, en gros, est quelque chose de fatal et inéluctable? Est-ce que... Il y a dans le contexte actuel possibilité de réagréger toutes les composantes de ce mouvement, voilà.
Donc Xavier et moi, on est tous les deux sociologues, on a tous les deux travaillé sur les mouvements de chômeurs dans les années, à la fin des années 90, on a fait ce qu'on appelle des enquêtes de terrain, des observations participantes, on a participé à ces mouvements également. Dans les groupes qu'on a étudiés, il n'y avait pas que des chômeurs, mais tout un ensemble de personnes qui se mobilisaient autour du chômage. Donc ce qu'on a essayé aussi de faire dans ce livre, c'est de répondre à une question qui nous a beaucoup interpellés, qui interpelle bien souvent les sociologues. C'est de comprendre pourquoi les gens se mobilisent, ou en tout cas ce qu'on appelle les formes d'engagement. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on va se retrouver dans une mobilisation collective de chômeurs ? Et cette question, elle est d'autant plus considérée comme une énigme que longtemps, les chômeurs ont été aussi perçus comme des personnes finalement peu mobilisées, apathiques, isolées, dans l'incapacité de se révolter ou encore de se rassembler. Donc c'est une question qui nous a évidemment préoccupés. Par ailleurs, dans la littérature sur ce qui existait, il n'y avait pas non plus énormément de choses, parce que beaucoup d'études se focalisent aussi sur les leaders, sur les responsables, sur ceux qui sont les plus visibles, qui ont plus de capitaux militants, et assez peu sur les figures qui échappent en tout cas à ce modèle. Alors vous vous doutez bien, dans la mesure où c'est très hétérogène comme groupe, il y a plusieurs manières de rentrer dans ces collectifs. Je vais pas donc dans le livre on énumère tout un ensemble de logiques qu'on a rencontrées d'entrée dans ces collectifs. Là, juste, il y a des choses qui paraissent plus évidentes, qui sont plus simples à comprendre, notamment quand il y a des socialisations militantes, quand déjà les gens ont une expérience du militantisme, c'est un peu plus simple de rendre compte de ces entrées en lutte. Là où on a, je pense qu'un des apports de l'ouvrage, c'est de s'intéresser à des personnes qui échappent complètement aux figures attendues, en fait, des mobilisations, donc qui sont les personnes qui sont les plus marquées par l'expérience du chômage, ou en tout cas pour lesquelles les conséquences du chômage sont les plus fortes, et qui n'ont pas au préalable eu de socialisation militante. Alors là, c'est la question qui s'est posée, comment ces personnes se mobilisent. Et ce qu'on essaie de montrer dans le livre, c'est que pour comprendre en fait cette énigme, il faut essayer d'élargir sa vision de l'engagement, en fait, de ce que ça veut dire l'engagement, ou encore de ce que ça veut dire la mobilisation. Et qu'à partir du moment où on élargit un peu, qu'on n'est pas sur une idée typique de ce que ça veut dire se mobiliser, et surtout qu'on reconnaît l'idée que beaucoup de personnes qui sont rentrées dans les collectifs ne venaient pas pour des raisons militantes, dans le sens, n'étaient pas dans des logiques d'engagement classique du militantisme. Il y a beaucoup de personnes qui venaient dans les collectifs avec des questions très précises, pour recevoir effectivement des aides, pour démêler un dossier, tout ce travail de permanence qui est très important en fait dans les collectifs. Et à partir de là, donc moi je me suis intéressée à ça parce que j'ai fait des permanences et puis des récits de trajectoire, c'est-à-dire de comprendre pourquoi ces personnes venaient, ce qu'elles avaient fait avant. Et ce qu'on observe très bien, c'est que finalement, les chômeurs qui arrivent dans les collectifs, c'est des personnes qui sont déjà mobilisées, en fait. C'est pas qu'elles commencent à se mobiliser, elles sont déjà mobilisées avant de rentrer. Elles sont mobilisées dans ce qu'on a appelé des pratiques de subsistance. Alors les pratiques de subsistance, ça caractérise plus largement les classes populaires, c'est toutes les pratiques qui sont nécessaires dans des situations de précarisation pour assurer la survie économique, et pas seulement au-delà de la survie économique. Et nous, ce qui nous a intéressé dans ces pratiques de subsistance, c'est toutes les pratiques. Alors il y en a beaucoup de pratiques de subsistance, je vais pas développer là, mais c'est surtout ce qui relève de la question de la protection, c'est-à-dire comment aujourd'hui, quand on est dans des situations précaires, on est obligé de se protéger. On a une partie du travail de la protection qui repose sur les individus. Donc à partir du moment où les formes de protection sociale se rétrécissent, il y a un travail de protection qui repose sur des individus qui supposent de faire sa protection. Vous voyez, je pense assez bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire aller voir des administrations, des associations, démêler des dossiers, tout ce travail qui est nécessaire, qui est d'autant plus d'ailleurs qui ne fait qu'augmenter avec le fait qu'on demande aux chômeurs en permanence de s'activer, de faire de plus en plus la preuve d'être secourus. Donc c'est à travers ces pratiques de subsistance et dans ces parcours de subsistance qu'on peut comprendre finalement des logiques, des formes de mobilisation. Alors évidemment, tout ça n'est possible, la condition c'est que les organisations soient visibles. Il faut qu'il y ait un travail de visibilité pour qu'à un moment donné, on aille taper une porte, qu'il y ait un local qui soit dans la rue, qu'on en ait entendu parler dans les médias. Sans ça, ça devient très compliqué d'aller taper à la porte d'un collectif. Et donc ces pratiques de subsistance, elles nous ont aussi intéressés pour comprendre ces logiques d'entrée, mais pas seulement. C'est aussi en lien avec ce que Xavier disait sur la question des ressources. C'est-à-dire que non seulement il faut élargir sa manière de considérer l'engagement, mais il faut aussi élargir la conception du militantisme. Parce que ce qu'on a observé, c'est que selon la prise en compte de ces pratiques de subsistance dans les collectifs, les façons de s'inscrire dans ces collectifs, de se mobiliser, elles sont différentes. Parce qu'on a vu que quand on a l'expérience de ces pratiques de subsistance, ça constitue une véritable ressource en fait. Avoir l'expérience d'un parcours de chômeurs, de précaires dans toutes les différentes administrations, c'est une ressource. Et on a pu le voir pendant les mobilisations de 97-98, hein, il y a tout un ensemble de personnes qui venaient avec des idées extrêmement précises, par exemple, d'action. Il y a plusieurs personnes qui viennent d'être radiées dans tel SCDI, qu'il faut absolument faire quelque chose. Hein. On va couper le courant de telle personne. Si on s'adresse à tel agent, il y a moyen de faire quelque chose. Donc cette expérience de la précarisation peut être effectivement et a pu très concrètement être une ressource pour l'organisation de lutte, pour par exemple la rédaction de tracts. Xavier raconte un épisode dans le livre sur Morlaix où il y a des assemblées citoyennes qui sont mises en place où très concrètement, on demande aux gens de raconter leur expérience du chômage, de la précarité, et cette expérience, elle va être déterminante pour justement construire des tracts, faire des actions, etc. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, ceux qui ont participé à ces luttes, souvent, il y a toujours un moment donné où on dit « Non, non, mais là, il y en a marre, il faut arrêter de parler de sa vie, on parle trop de vécu personnel, etc., etc. » Mais en fait, quand il y a des espaces qui permettent aussi la possibilité de cette expression-là, elle peut être aussi le support d'une ressource, au sens vraiment de ressource militante, pour construire des luttes. Encore faut-il qu'il y ait effectivement des espaces, des pratiques, qui permettent d'activer cette ressource-là pour de la rendre visible, de la rendre efficiente.
Je voudrais, sans la nommer, vous parler d'elle comme d'une bien-aimée, d'une infidèle.
Imposent plutôt la cause du revenu. C'est-à-dire ceux qui dirigent la lutte disent on est là pour les minima, on est là, et il y a tout un discours dès la première AG de la part des dominants. Alors ce que j'appelle les dominants, c'est les militants. Les militants, d'accord, qui ont des discours sur la fin du travail plus ou moins intellectualisés. On entend des choses de la part du pôle anarchiste qui est une phrase qui résonne, première AG, moi je chie sur le travail. Vous voyez, c'est des trucs qui cristallisent des tensions qui au départ apparaissent pas, mais quand les conflits vont se construire dans le mouvement de Morlaix, à un moment l'enjeu revendicatif va surgir, et là il va y avoir ce comité de chômeurs qui a toujours dit qu'on était là pour les revenus, c'était un comité de feignants, on a entendu ça, un comité de feignants parce qu'ils veulent pas bosser, mais c'était des trucs qui étaient en sourdine, qui n'apparaissaient pas dans les AG quand tout allait bien, et quand les conflits ont surgi entre nous, clac, c'est monté, et le droit au travail est devenu un gros enjeu. Bon, sur féminisme, donc c'est pour dire que, juste pour répondre, que c'est compliqué ces trucs-là. C'est qu'on se prenait des revendications nationales qu'au niveau local, nous, il fallait qu'on gère. Mais elles ont été rediscutées, ça c'est sûr, plus ou moins. Féminisme, cargo. Donc là, je vous répète, c'est Paris. au niveau local, il y avait des militants et des militantes, surtout féministes, dans les luttes de chômeurs, mais qui sont arrivés de manière isolée, qui ont essayé de porter quelques revendications féministes à l'intérieur, mais qui ont vite abandonné pour deux raisons. La première, c'est que la fin de non-recevoir a été parfois violente, c'est-à-dire qu'il y a, par exemple, il y a des nanas qui ont dit « Est-ce qu'on pourrait pas se faire des commissions femmes ?» pour parler spécifiquement, et là immédiatement, non, on est tous ensemble, chômeurs, chômeuses, pas de différence. Et l'autre truc, c'est qu'accessoirement, ces féministes, alors il y en avait qui arrivaient en tant que salariés, il y en avait qui arrivaient en tant que chômeuses, mais elles disaient qu'elles avaient un peu ras-le-bol aussi d'être prises pour les féministes de service, c'est-à-dire d'être résumées au statut de féministe dans la lutte, alors qu'elles n'étaient pas que ça. Elles étaient aussi anticapitalistes ou des choses, elles avaient envie de participer à la lutte. Voilà. Donc c'est juste pour répondre qu'en tout cas au niveau local. Même si, je l'ai expliqué ailleurs que dans le livre, mais il y a eu des pratiques féministes dans la lutte. Mais c'était pas au nom du féminisme. Bon.
Alors sur le miracle social, donc effectivement Bourdieu a dit que c'est un véritable miracle, mais c'était pas le seul, hein. Il y a eu beaucoup de sociologues qui ont utilisé ce type de terme. C'est pas étonnant, parce que Pierre Bourdieu, ce qu'il a beaucoup mis en avant dans son travail, c'est quand même les formes de domination, les logiques de domination. Donc quand des populations qui sont dans des positions dominées viennent à se rassembler, se révolter, ça rentre pas tout à fait dans le cadre analytique. Et ça rentre d'autant moins dans ce cadre-là que le chômeur est défini comme une version inversée de l'ouvrier. Donc il n'a pas ses capacités d'action. Voilà. Sur le revenu garanti, sur les débats, donc assez, ça fait couler beaucoup d'encre quand même. En tout cas, si vous regardez le journal interne d'Assez, la lettre rapide. Hein. Il y a des textes entiers, des débats entiers sur les questions du revenu. Ce que je trouve intéressant, et l'échange avec Xavier de Nométrio est intéressant, c'est d'étudier ce qui émerge à un moment au niveau, ce qui est visible, au niveau collectif, ce qui peut émerger dans les médias, dans des tracts, dans des journaux, et ce qui est dit dans des entretiens individuels. Et ce qui est frappant, c'est que, par exemple, si on s'intéresse aux tracts d'essai, à la littérature qui sortait, à tout un ensemble de débats qui ont eu lieu, c'est que la question du revenu, elle est très importante, elle est posée, il y a énormément de littérature là-dessus, de textes, c'est très renseigné, il y a beaucoup de débats. Mais finalement, quand on interroge les personnes qui ont participé, c'est une revendication qui est un peu par défaut. C'est ça qui émerge. C'est-à-dire, dans la grande majorité, les personnes qu'on a rencontrées ne sont pas contre le travail, ou en tout cas contre l'emploi. Il y avait un désir plus tard. Ça n'empêche pas une critique de certains. C'est ce que tu disais, Evelyne le disait aussi. Ce qui n'empêche pas une critique, et c'est qu'effectivement, de certaines formes d'exploitation, d'emploi, etc. Mais ce qui apparaissait très nettement, c'est que les gens voulaient du boulot, hein, ils souhaitaient retravailler. Et puis avec alors le revenu, évidemment, il y a ce côté, quand ça rejoint les mesures d'urgence, on n'a pas de fric, on en a besoin, oui, d'accord. Mais il y avait des débats de fond quand même très intéressants. Moi, je me souviens de réunions, parce que c'est des réunions où on se projette dans un futur qui n'existe pas, où c'était, bon, alors par exemple, toi, si on te donne, si on dit, voilà, demain, on a un revenu garanti égal au SMIC, qu'est-ce que t'en penses, quoi ? Et c'était très intéressant parce que dans l'ensemble, quand il n'y avait pas justement les militants qui théorisaient cette question, mais que c'était c'était des débats entre personnes qui n'étaient pas c'était pas théorique, en tout cas c'était pas des militants qui militaient pour le refus. Ça donnait des choses, des débats très philosophiques sur ce que ça veut dire contribuer à la société. Et finalement, ce qui ressortait, c'était oui, mais alors dans ce cas-là, qui va vider les poubelles ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait une réflexion sur ce que ça veut dire faire société sans la question du travail collectif et partagé.
Justement, en fait, ça avait l'avantage de faire surgir des bonnes questions, tu vois.
C'était très, c'était effectivement très intéressant.
Et ça revient aujourd'hui avec la question du revenu de base. Hein.
C'était très intéressant. C'était la question de la contribution à la société, la question de l'émancipation. Qui se posait, et ce que disait ce que disait Xavier, notamment pour les femmes, comment échapper en fait à l'espace domestique si l'emploi n'existe plus, qu'est-ce que ça va produire, et pour les femmes qui avaient peu de diplômes, qui étaient dans des situations précaires. Cargo, c'est un tout petit collectif qui a fait énormément de diffusion. C'est-à-dire, c'est un groupe qui rassemblait des intellectuels, qui avait une grosse capacité comme ça d'action et de rendre visible des choses. Donc, très peu, ils étaient capables, effectivement, de... un revenu s'est indu, c'est eux qui ont été en mesure de diffuser cette revendication-là. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une revendication, et ça, c'est intéressant, c'est pas forcément la résultante de sommes individuelles de points de vue, mais la résultante aussi de rapports de force à un moment donné, de capacité d'action, etc., etc. Par ailleurs, le revenu était séduisant aussi. Quand je dis séduisant, c'est entre guillemets, parce que en dehors de la question de sortir du chômage par l'emploi, c'était une autre manière, une option de sortir effectivement du système en place par un dépassement des modes de protection sociale. Donc c'était une autre option que celle de l'emploi qui pouvait aussi être séduisante. Voilà. Mais pas le revenu de cargo. C'était toujours ça qui était dit. On veut bien de ça, mais pas le revenu de cargo, etc. Parce que les militants cargotistes, c'était aussi un côté très agressif dans le militantisme. Non, mais c'est réactif. Hein,
c'est de dire qu'il y a des jeunes chômeurs, c'est-à-dire qu'il y avait une faible expérience du chômage, et qui se sont rejoints un peu dans les luttes de chômeurs, sortant juste de l'université sans y avoir réussi, et qui, dans les luttes de chômeurs, vont apprendre à se connaître au point de continuer à lutter ensemble une fois que les luttes de chômeurs se sont arrêtées. Et par exemple, à Rennes, même s'il existait déjà ce qu'on appelle des squats, des choses comme ça, il y a eu des squats d'activités politiques qui ont été très importants localement, qui ont donné beaucoup de choses dans le milieu d'extrême-gauche, anarch, libertaire. J'ai pas le temps de développer, mais c'est juste de dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont issues de ces mobilisations de chômeurs, qui ont eu des débouchés au-delà des seules luttes pour le chômage, pour ces personnes, et collectivement, même pour l'ensemble du milieu militant. Alors, moi, je suis chargé maintenant de commencer à parler des choses qui sont moins rigolotes, et pour comprendre qu'il s'est passé des choses moins rigolotes dans ces luttes de chômeurs, il faut commencer par présenter qui y avait dedans. Et donc on a tout un travail, on a croisé nos données. Ça n'a pas été simple parce qu'on s'est bien engueulé, parce que c'est particulier, et Rennes et Morlaix, ben aussi c'est particulier. Donc il y a des Bretons chez nous, des indépendantistes bretons, enfin vous voyez. Donc il a fallu mélanger toutes ces données pour arriver à constituer des figures un peu transversales, ce qu'on a appelé des pôles. Pour la faire simple, on a repéré trois pôles dans ces luttes de chômeurs qu'on retrouve dans AC, dans Morlaix, dans Rennes, avec une importance plus ou moins forte. Des pôles qui se constituent les uns avec et les uns contre les autres. Je vais expliquer. Premier pôle, ce qu'on a appelé le pôle syndicaliste. Donc ce pôle syndicaliste, pour nous, c'est celui qui est le plus ancien dans les luttes de chômeurs, qui a été initiateur le plus souvent de ces luttes de chômeurs, et notamment pour AC. Ce pôle syndicaliste, c'est celui qui va fournir les principaux porte-parole hyper médiatisés des luttes de chômeurs. Et c'est un pôle qui... est assez paritaire en termes de sexe, c'est-à-dire qu'il y a à peu près autant d'hommes que de femmes, mais qui va être clivé par deux choses qui le traversent, deux conflits qui le traversent. Le premier, c'est le fait qu'il n'est pas homogène, notamment entre AC et la CGT au niveau local, mais je crois qu'au niveau national c'était le cas, il y a aussi eu des tensions alors qu'on est sur un pôle qui était réuni, en tout cas par les luttes de 97-98, ce qu'on a appelé la bande des quatre ensuite. Bon, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais les chômeurs qui rentraient en fait dans les luttes, appelés les quatre organisations qui étaient déjà là depuis 15 ans, 10 ans, 5 ans, la bande des quatre. Ce qui était dur pour les organisations, puisqu'elles se pensaient aussi comme nouvelles. Bon. Donc, il est clivé entre organisations et il est clivé aussi entre hommes et femmes. Donc, ça, c'est mon aspect plus particulièrement, notamment parce qu'il y avait une division sexuelle du travail militant, on l'appelle comme ça, et le fait que dans ces organisations-là, c'est pas n'importe qui se retrouvait porte-parole ou à la tête de ces organisations, et c'est aussi ces hommes-là qui, à l'intérieur des organisations, prenaient de plus en plus de place, qui se sont retrouvés aussi initiateurs des mobilisations de 97-98. Alors au niveau local, c'est très visible, et du coup, c'est eux qui sont particulièrement médiatisés. Voilà, ça c'est pour le pôle syndicaliste. Le pôle anarchiste, c'est le second pôle qu'on retrouve dans ces luttes. Alors, il prend des dénominations, on s'est bien engueulé là-dessus. Moi, je voulais l'appeler pôle anarchiste partout. Valérie voulait absolument l'appeler aussi pôle cargotiste, puisque je crois que dans AC, il a une dénomination particulière. Mais voilà, pôle anarchiste ou cargotiste. C'est pour ça qu'on l'a appelé avec les deux noms dans le livre.
C'est à Paris, ça.
Comité d'action pour un revenu garanti. Collectif.
Comité d'agitation.
Bon, alors vous voyez que ce pôle a été très important puisqu'il a agité la place du chômage. Bon, ce pôle arrive plus tardivement dans les luttes. Ça ne veut pas dire que c'est pas le pôle initiateur. Et ce pôle va se construire plutôt en opposition au pôle syndicaliste. En tout cas, si on prend ce qui s'est passé en 97-98, notamment, moi, pour ce que j'ai observé à Rennes et dans d'autres villes de Bretagne, ce pôle anarchiste arrive au moment de ces luttes-là, localement, et se construit immédiatement en opposition au pôle syndicaliste. Il s'y construit parce qu'ils se connaissent. Ils se connaissent d'avant. Ils ne s'aiment pas pour des raisons militantes depuis longtemps, sauf que là, il se passe un grand mouvement et ils se retrouvent, du coup, obligés de coexister. Mais c'est une coexistence qui est non pacifique. Notamment, dire que ce pôle syndicaliste, il est très masculinisé. En tout cas, nous, localement, il est à plus de 80% masculin. Il n'y a pratiquement pas de femmes. Et ce pôle va exercer un gros pouvoir attractif dans ces luttes de chômeurs pour deux raisons, enfin non, sur deux aspects qui sont aussi deux raisons. Il a un pouvoir attractif très fort sur la question de la conduite de la lutte. C'est-à-dire qu'en 97-98, les organisations de chômeurs initient les luttes, et alors à Rennes ça se voit particulièrement, les AC et la CGT disent « bon, mais c'est simple, pour organiser la lutte, on va faire un bureau représentatif avec des gens d'AC, des gens de la CGT et des gens ce qu'ils appelaient les indépendants, c'est-à-dire ceux qui viennent d'arriver dans la lutte. » Et ça, ça crée, le pôle anarchiste repère une grosse faiblesse là-dessus d'organisation et dit « Non, 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 on va pas faire ça, on va faire des assemblées générales, souveraines et décisionnelles. » Et le pôle anarchiste remportera la palme, en tout cas à Rennes. Donc il y a sur la conduite des luttes, il y a des conflits, il se construit contre le pôle syndicaliste et il se construit aussi contre le pôle syndicaliste sur la question du travail, discours sur le travail.
Comité réduit, foule immense, qui ce soir de votre présence me faites le don et l'amitié. Vous qui ne cédez votre...
Un rendement meilleur, non, que le profit reste nôtre, que les pertes soient pour les autres, l'État paiera pour les chômeurs.
Aïe, le travail, grosse malheur.
Moi, j'ai vraiment vécu les choses de l'intérieur et plus de 35 heures par semaine. crois qu'on venait à Serre ou d'Avron ou ailleurs, la maison des gens ensemble, c'est aussi pour rencontrer du monde. Je crois qu'il y a une très forte socialisation du fait de militer ensemble, plutôt que de rester tout seul dans son HLM en face de sa tranche de jambon, de caricature, pour trouver là, la conversation, pour faire des choses ensemble, etc. On sait bien que dès que les chômeurs en dehors de l'entreprise ils sont désocialisés, on avait là une façon extrêmement intéressante de rencontrer du monde et de socialiser. La fonction de socialisation du vitesse pour chômeurs, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et bon, j'ai beaucoup échangé avec beaucoup de copains là-dessus. Ça leur a fait beaucoup de bien que de militer un peu. Et j'avais aussi un copain, il est pas là ce soir, pour toi, tu l'équipe, il avait du mal à se lever le matin. Je dis, moi, je me lève le matin avec beaucoup de plaisir parce que je sais que je vais emmerder les capitalistes et rien que ça, ça me donne envie de me lever. Et oui, c'est aussi pour ça qu'on se levait de bonne heure le matin. Il y a aussi quelque chose aussi, c'est cela qu'on vient étudier, Bourdieu et d'autres, mais en dehors de l'entreprise, l'usage du temps nous est prescrit. Et ça peut être terrible de rien avoir à faire. Sauf si on s'invente en emploi du temps militant et politique, je veux dire, la vie prend une autre dimension. Je crois qu'à travers le militantisme, nous avons inventé un nouvel usage du temps. Mais dont l'usage était autodéterminé, c'est nous qui décidions de ce qu'on aime notre temps. Par rapport à la discipline d'entreprise, il y avait aussi quelque chose d'extrêmement différent. Vous n'avez pas assez insisté là-dessus. Sauf aux alentours de la page 125, etc. Bon, il y a eu des moments. Il y a eu des moments très durs, il y a eu des grosses rigolades, entre l'intendance Cargot, dont j'étais quand même, mais en plus, j'aimais bien Claire Villiers aussi, qui était plutôt l'intendance catho-keynésienne, on va dire. Je me suis beaucoup engueulé avec elle, énormément, mais j'aimais beaucoup ça. Quelquefois, on disait, nous l'avons, j'ai engueulé avec Claire Villiers, oh, c'est vraiment bien, etc. On s'est beaucoup engueulé, mais on est toujours resté copains, etc. Il faut dire aussi, tout de même, une véritable engueulade, une véritable confrontation intellectuelle contre des ordres, ça nous fait bouger aussi. Moi, j'étais très critique du travail. Quand j'écoutais Claire Villiers ou certains, on les appelait les travaillistes, mais je disais, oui, finalement, etc. Parce que la vraie confrontation, le vrai débat, etc., ça nous fait changer un peu dans nos têtes. Et dans le militantisme, on a appris ça aussi. Puisqu'on ne travaillait pas, on avait le temps de réfléchir et d'humiliter. Il faut dire aussi, nous avons aussi marqué quelques points. Et pourquoi, quand les chômeurs se mobilisent, on s'est mobilisé parce qu'il y avait encore à faire court, mais il y avait encore un horizon d'attente jusqu'aux années 2000, encore de l'espoir. On espérait changer un peu la société. On a marqué des points. Il y a quand même une délégation qui a été reçue par Lionel Jospin à Matignon. Oui, c'est pas rien. Claire Villiers, Christophe Aguiton et quelques copains qui ne sont pas là, que le Premier ministre nous reçoive, il a lâché aussi l'augmentation de la SS. L'augmentation de la SS, oui. Donc, après, donc on était assez fort et on pouvait marquer des points. Cela nous donnait un peu d'espoir. Et voilà. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à méditer. Et si je suis encore là, c'est parce que j'ai encore eu du plaisir à vous écouter.
Evelyne, maintenant, Evelyne Perrin, qui a fait des travaux aussi sur ces sujets-là,
J'étais contente à vous écouter de revivre des moments très forts que j'ai vécu quand on occupait la maison des enfants, quand on occupait les pôles emploi, tout ça. Mais je vais parler un peu d'actualité. Pourquoi le mouvement des chômeurs est si affaibli, si divisé, puisque même demain on ne sera pas tous ensemble. Est-ce que c'est lié aussi au fait que c'est difficile de se revendiquer ou de tenir une identité de chômeur ou d'aller dans un endroit où on se définit comme chômeur peut-être. Or aujourd'hui, jamais le chômage et la précarité n'ont touché autant de gens. Et je vois qu'en 20 ans, depuis ces fameuses occupations de 97-98, on n'a pas arrêté de prendre dans la gueule des destructions terribles de tous les droits qu'on avait acquis. On n'a pratiquement pas vu se créer grand-chose, la prime de Noël, oui d'accord, mais je veux dire, tous nos autres droits, l'assurance chômage est en pleine destruction, et le syndicalisme aussi est très affaibli. Il est très affaibli et divisé aussi. Et ce qui peut-être peut nous donner de l'espoir, c'est que justement, comme maintenant, tout le monde est confronté à la précarité, au chômage, surtout les jeunes, ça fait partie de leur vécu, etc. Qu'ils essayent de faire des études, ce qui va maintenant leur devenir interdit pour une majorité d'entre eux, ou qu'ils n'essayent pas. Si je mets de côté une question très grave qui est celle des personnes qui, à partir de 45 ans, 50 ans, savent qu'elles ne reprendront plus de travail et qu'il ne faut surtout pas les laisser dans leur isolement, et on voit bien qu'on a beaucoup de mal à les toucher, à leur donner de l'espoir par la solidarité, etc. Ce que je vois quand même qui peut nous donner de l'espoir, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de luttes. Il n'y a jamais eu autant de luttes sur tous les fronts en même temps. Et il y a aussi des nouveaux modes d'organisation qui interpellent le syndicalisme. Et le syndicalisme est aussi en train de s'y adapter et y répondre progressivement. Quand on voit les coursiers qui s'organisent en faisant des collectifs qui vont chercher l'aide des syndicats et qui la trouvent pour résister à des modes de subordination, d'assujettissement au travail de plus en plus raffiné avec cette gestion par les algorithmes où les jeunes qui croient échapper au salariat au nom d'une liberté, d'une autonomie se retrouvent encore plus assujettis. Quand on voit aussi ce que deviennent nos hospitaliers, nos postiers dans les services publics où ils se suicident, etc. Je veux dire que les luttes, elles existent, mais je pense que le syndicat est en pleine évolution. Une partie du syndicalisme commence à s'adapter, à répondre justement sous de nouvelles formes. Mais moi, je retiens un grand enseignement de toute cette période et qu'on voit à l'heure actuelle qui est très important, c'est le blocage. Le blocage de l'économie, on l'a fait, nous, quand on était justement dans le mouvement des chômeurs. Aujourd'hui, il y a eu de nombreuses tentatives de blocage, la maison de la grève à Rennes, etc. Je veux dire que ça continue de plus belle. Il y a des territoires où les gens occupent, en résistance. Il y a aussi des occupations d'usines. Pour celles qui restent, il n'y en a plus beaucoup. Ou des blocages d'endroits clés pour l'économie capitaliste, là où passent les flux du capital. Et donc, je pense que c'est peut-être ça qui peut nous donner l'espoir, c'est qu'on voit bien qu'il y a un renouvellement aujourd'hui dans les luttes.
Cette année, alors que la situation est particulièrement grave, eh bien, ça n'a pas été possible, mais il va y avoir des actions un peu dans différentes directions. Pourquoi ? Parce que cette année, il y a des circonstances qui ont fait que il y a eu la loi Pénicaud qui a été adoptée au mois d'août dernier, qui change totalement le fonctionnement de l'assurance chômage et qui va avoir des conséquences. Bon, en particulier, et il y a quasiment une disparition des cotisations sociales, donc salariés et puis en grande partie patronale, parce qu'il y a des exonérations jusqu'à 2,5 fois le SMIC. Donc les cotisations sont en voie de régression. Donc on nous dit il y a une dette de l'UNEDIC soi-disant de 35 milliards, mais qui a été fabriquée en réalité par la direction, parce que c'est la direction de l'UNEDIC qui a été s'endetter sur les marchés financiers avec des processus qu'on peut pas vous décrire maintenant, mais qui sont scandaleux, parce que tout ça ça va donner ce qu'on appelle la titrisation, alors bon, etc. Donc, on sait que l'indemnisation du chômage va être encore diminuée, alors qu'il n'y a déjà que 42% de chômeurs indemnisés par l'UNEDIC. Donc ça va être encore réduit, avec de plus en plus de limitations pour la possibilité de cumuler à la fois un revenu du travail et une allocation, etc. Donc des choses très très graves. Bon, et les nouvelles négociations que donc Pénicaud a obligé les partenaires sociaux à se réunir, et ça tombait juste au même moment. Et comme la CGT fait partie de ces négociations, et qu'ils ont dit oh là là, on est, ils sont sur le point de quitter la table des négociations tellement la situation est grave, ils ont dit il faut qu'on fasse une journée, et la CGT a décidé de faire une journée de sa confédération et avec la CGT chômeur, et AC en fin de compte a dit ben nous on les suit parce que la situation c'est celle-là, il faut faire un gros truc demain, il faut faire un gros truc. Après, les autres associations ont décidé de faire d'autres choses, il y a d'autres rendez-vous, donc notamment pour une action à Opéra à 13h45. Bon, il y a des gens, des associations de chômeurs qui ont envie d'aller à l'action aussi, bon, etc. Après, il y en a qui ont dit, voilà, Alain, il a mis son gilet jaune, bon, etc. Donc, il va se passer plein de choses demain. Donc, on vous donne rendez-vous à 13h, place de la République, pour défiler. Avec, on a fait une banderole pour AC, donc on va défiler avec les revendications d'AC qui sont toujours, pour les principales, la réduction du temps de travail immédiate à 32 heures, sans perte de salaire, et puis la deuxième, indemnisation de toutes les formes de chômage, au moins au SMIC. Voilà. Cette année, il y a des circonstances qui ont fait que il y a eu la loi Pénicaud qui a été adoptée au mois d'août dernier, qui change totalement le fonctionnement de l'assurance chômage et qui va avoir des conséquences. Bon, en particulier, et il y a quasiment une disparition des cotisations sociales. Donc salariés et puis en grande partie patronale parce qu'il y a des exonérations jusqu'à 2,5 fois le SMIC. Donc les cotisations sont en voie de régression. Donc on nous dit ah il y a une dette, il y a une dette de l'UNEDIC soi-disant de 35 milliards mais qui a...
Voilà, donc oui, donc on reprend la parole. C'était donc un débat qui s'est déroulé à la commune d'Aligue le 30 novembre à propos d'un ouvrage qui retrace la lutte des chômeurs quand les chômeurs se mobilisent, Valérie Cohen et Xavier Duneza aux Presses universitaires de Rennes. Achetez-le, c'est 25 €, c'est pas très cher et en plus c'est l'histoire des luttes, donc c'est intéressant, surtout que c'est les luttes des chômeurs pour le coup. Vous avez donc entendu dans ce débat, donc bien sûr, Odile Merkling, qui était à l'origine de ce débat, également Valérie Cohen et Xavier Duneza, qui étaient sociologues auteurs de ce livre, également Alain Véronèse et Evelyne Perrin, bien sûr, qui sont des camarades de notre mouvement. On les salue, bien sûr. Et d'ailleurs, on en profite, puisqu'on a la parole, Ludo, pour souhaiter à tous et toutes une excellente année 2019, en espérant, bien sûr, qu'elle sera nettement meilleure que celle qui a passé avant, donc 2018, évidemment.
Et c'est mal parti.
Et c'est mal parti, voilà. Donc, on reprend notre sujet. Donc vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM dans l'émission Mode d'emploi. Mode d'emploi, c'est l'émission des chômeurs et précaires pour le coup. Et donc maintenant, on va parler bien sûr de quelque chose qui peut nous fâcher puisque c'est extrêmement grave ce qui se passe aujourd'hui. C'est le décret qui effectivement remet en cause l'assurance chômage avec des punitions pour les demandeurs d'emploi en cas où ils refuseraient des annonces et enfin, des emplois, quoi.
Oui, alors je fais une précision tout de suite. En fait, l'État peut intervenir dans les négociations de l'assurance chômage parce que les négociations sont en cours, tout simplement parce que, comme le disait Odile à l'instant, comme il a supprimé les cotisations chômage de la feuille de paye des salariés, il s'est engagé à compenser d'autant par l'impôt, en fait. Et donc, c'est lui, désormais, qui est la main et qui est sur l'UNEDIC, en quelque sorte. D'accord. Et qui, par une loi cadre, peut, par exemple, fixer des objectifs dans une lettre de mission aux négociateurs, ou alors carrément écrire des choses dans la loi. Et donc effectivement, cette loi fait partie de la loi, ce décret sur les sanctions concernant les chômeurs qui refusent un emploi, faisait partie de la loi Pénicaud sur l'avenir professionnel, bien sûr. Voilà, donc c'est un beau mot, quoi. Et donc du coup, la surprise en fait, c'est un décret du 30 décembre, c'est que le décret est beaucoup plus dur que ce qui était prévu à l'origine. Donc c'est tout ça, c'est juste après le mouvement des gilets jaunes. Donc bon, voilà, on a un Macron qui est droit dans ses bottes et donc qui a durci en fait ce qui était prévu dans la loi, ce qui est une façon en fait de faire les choses en catimini derrière l'Assemblée. Donc concrètement, ça donne quoi ? Ça donne qu'un chômeur désormais eh ben, il sera sanctionné immédiatement en cas de manquement à ses obligations. Et ses obligations, c'est par exemple répondre à une convocation d'un conseiller de Pôle emploi. Donc, il peut avoir de bonnes raisons, il peut y avoir des preuves de mail, tout ça, mais ça peu importe. Eh ben, c'est la radiation. Alors, c'est pas la radiation, c'est la suppression des allocations, on peut dire ça comme ça. C'est la suspension, mais sans effet rétroactif. C'est-à-dire qu'auparavant, vous étiez sanctionné et vous récupériez vos allocations le mois d'après, ce qui permettait de compenser, hein, même si vous aviez si vous étiez légèrement déficit. Là non, en fait ça décale dans le temps, donc vous avez au moment où vous êtes où vous perdez vos allocations, vous avez réellement aucune ressource. Donc c'est pour une durée d'un mois, et c'est après donc un refus de convocation, mais c'est aussi pour des recherches insuffisantes d'emploi. Et une recherche insuffisante, ça veut, désormais vous serez bientôt obligé de justifier vos recherches d'emploi sur un espèce de d'intranet en ligne, d'internet en ligne en fait, où vous remplirez vos numériquement hein, vos recherches effectives que vous enverrez à votre Pôle emploi. Si c'est insuffisant, suspendu, allocation suspendue. Et c'est aussi le refus d'une offre d'emploi raisonnable. Alors on a ici parlé beaucoup de ce qu'est une offre d'emploi raisonnable. Il y a un petit problème, c'est que l'offre d'emploi raisonnable, la définition d'offre d'emploi raisonnable, va être supprimée dans le décret, le salaire perçu antérieurement. Grosso modo, vous, dans un premier temps, un chômeur pouvait refuser une offre d'emploi quand le salaire était trop bas par rapport à son ancien salaire. Et au bout de 12 mois, il y avait une espèce de dégressivité qui s'installait. Désormais, cette disposition de salaire antérieur sera supprimée. Et donc, si vous refusez un emploi directement, à terme, au premier emploi, hein, vous voyez vos allocations supprimées. Donc, c'est un décret qui est épouvantable. En fait, alors, attention, hein, la première fois, c'est supprimé un mois. La deuxième fois, c'est supprimé deux mois. La troisième fois, c'est supprimé trois mois. Vous voyez,
c'est délirant. Alors, par exemple, on va être pieds sur terre, pour le coup, contrairement à Macron, qui est lui dans les airs, mais un chômeur qui touchait, on va dire, un emploi à peu près stable en CDD chez 1 500 € par mois, il se retrouve au chômage, on lui offre un nouvel emploi à 800 € pour un mi-temps, il est obligé d'accepter.
Alors voilà, c'est d'accord. Ça. Alors évidemment, ça sera à la latitude de Pôle emploi, mais si vous voulez, le conseiller de Pôle emploi aura tous les éléments dans le décret pour alors c'est aussi une nouveauté, pour décider de suspendre. Et c'est aussi une nouveauté du décret, c'est qu'auparavant, vous aviez un recours à la direction de Pôle emploi, puisqu'on considérait que Pôle emploi ne pouvait pas décider de lui-même de suspendre les allocations comme ça. Là, désormais, ça sera une décision de l'agent de Pôle emploi lui-même. Hein, c'est-à-dire pour la rendre en fait faire exécutoire et facile à prendre.
Ce qui permet toutes les dérives, ça. Si c'est
exactement.
Si c'est à la tête du client. Si un peu,
alors,
c'est faciès, comme on dit. C'est-à-dire que
si c'est
y a une relation
ça,
difficile entre un. Tu vois ce que je veux dire?
C'est un contrôle en fait individualisé sur effectivement la recherche effective entre guillemets du chômeur. Alors il y a juste un souci quand même dans cette histoire, c'est que comme on l'a dit, hein, les statistiques du chômage sont pas brillantes, et surtout les statistiques d'embauche, c'est-à-dire qu'en fait 80% des embauches dernièrement étaient quand même pour des CDD et 73% je crois pour des CDD de moins d'un mois.
D'accord.
Donc, il y a aujourd'hui un nombre inégalé de personnes inscrites à Pôle emploi.
Malgré 6,5 millions, je crois.
Voilà. Malgré la baisse du taux de chômage. Alors, il faut rappeler que le taux de chômage est calculé par rapport à la population active, mais la population active augmentant, alors la population active qui augmente, ça veut dire qu'en fait, il y a plus de gens qui veulent travailler, oui, qui ont besoin de travailler. Plus de gens seuls, par exemple, plus de femmes.
Mais qui travaillent peu de temps ou peu d'heures.
C'est des gens qui veulent travailler, et donc, effectivement, il y a quand même un équivalent temps plein qui est à peu près qui est le même que dans les années 90. Donc, effectivement, on a des emplois en miettes, des emplois en petits bouts qui sont proposés. C'est d'où l'augmentation des emplois à temps précaire et à temps partiel. Et donc, du coup, en fait, ce décret, c'est tout simplement une façon de faire en sorte que de mettre au travail coûte que coûte des gens et à leur faire accepter n'importe quoi.
Ah,
y compris des petits boulots, y compris des trucs qu'ils auront envie de faire en 3 semaines, y compris, peu importe, tant qu'ils travaillent. et on s'intéresse pas de reste. Donc ça a un effet direct, c'est un effectivement d'appauvrir, de précariser en fait, hein, les chômeurs. Donc je rappelle que l'indemnisation moyenne est de 900 euros, donc c'est même pas le seuil de pauvreté. Et puis c'est un autre effet, c'est qu'en réalité ça peut avoir un effet de décourager simplement des gens de s'inscrire à Pôle emploi ou de toucher les allocations. Donc c'est déjà le cas, il y a un certain nombre de gens qui déclarent se retirer en fait du marché du travail. Ce qui fait que c'est une espèce d'artifice, c'est-à-dire que le chômage déclaré, parce que c'est une déclaration quand même des gens, baisse, en fait le chômage réel, lui, il augmente. Et c'est pour ça qu'en période de croissance, on a la surprise de voir le chômage augmenter, parce qu'il y a des gens qui se réinscrivent en fait au chômage, parce qu'ils pensent pouvoir... Et donc, en réalité, c'est un artifice aussi gouvernemental pour c'est-à-dire discipliner les gens de façon à pouvoir faire état devant les électeurs bien pensants que le chômage baisse, en fait. Ce qui, évidemment, vu l'état du pays et vu l'état du marché du travail, n'est pas vrai. Oui. En fait, et là, on a une illustration criante. 6,5 millions de personnes inscrites à Pôle emploi, c'est 6,5 millions de personnes qui recherchent un autre emploi, qui voudraient travailler, qui cherchent un emploi décent. Et les statistiques ont beau baisser, les statistiques de chômeurs à temps plein, quelque sorte, et ben en réalité, il n'y a jamais eu autant de formes d'emploi dégradées et de précarité dans notre pays.
Alors, juste une question, Ludo. Que peut-on penser justement du silence de la presse et puis des syndicats par rapport à ce nouveau décret?
Parce que, alors, je pense que c'est parce que le décret
est debout.
Alors c'est un petit malin. Le Macron, vous avez quand même remarqué que le décret est passé le 30.
Oui, évidemment.
Juste avant les fêtes. Donc, évidemment, tout le monde est en vacances. La loi a été votée.
Oui.
Hein, donc, c'est juste un décret d'application. Et donc, en dehors de la mobilisation des gens, on est tous un peu, les pieds pendus. Alors, il y a eu des réactions politiques quand même. Et puis, surtout, la question, c'est qu'en fait, le problème, c'est la suite. Parce qu'ensuite, maintenant, va avoir lieu les négociations de l'UNEDIC. Et elles ont lieu dans un contexte qui est fixé, vous voyez, où on a mis un coup de matraque, en fait, sur les chômeurs. Et donc, quelle va être la suite des négociations, et qu'est-ce qu'on va proposer encore comme régression, parce qu'il risque d'y en avoir un certain. Alors je vais pas faire la liste parce que là il est un peu tard, mais effectivement on risque d'avoir un durcissement par exemple de l'indemnisation en cas de cumul d'emploi.
Ah oui, d'accord.
C'est-à-dire que
Quelqu'un qui cumule deux demi-temps, il pourrait être...
Alors, jusqu'à maintenant, c'est des systèmes très complexes. Précarité introduit de la complexité. Si quelqu'un perd un, il a trois employeurs, il en perd un, il est indemnisé. Et donc, il peut, par un jeu,
il
parfois,
peut jongler un petit peu,
éventuellement gagner plus ou gagner à peu près par l'indemnisation. Donc, il faut réduire cette indemnisation. Donc, est fait, grosso modo, pour que le chômeur... À la fin, il fait ce calcul qu'il faut qu'il aille travailler, parce que de toute façon, ça sera plus rentable. Et s'il veut pas, on l'y contraindra.
Bon, il reste une solution, c'est renverser le gouvernement, comme on dit dans les pays. Donc, merci à ce gouvernement d'avoir tabassé sur tout ce qui bouge, c'est-à-dire les services publics, les chômeurs et puis le reste, les retraités également. Donc, cette émission se termine. Je vous remercie à tous et toutes de l'avoir suivi. Je vous réitère mes vœux pour l'ensemble des animateurs du mode d'emploi. Voilà, je vous dis dans un mois. Gros bisous aux filles et poignées de mon garçon. Ciao.
Bonsoir. Stop this world. Let me off. There's just too many pigs in the same trough.